Ça répond à votre question ou... Oui. Y a-t-il d'autres questions ?
Oui, je voudrais reprendre sur ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir qu'effectivement, on entend que la psychanalyse ne se passe que sur le divan, pour éviter, j'imagine, tout ce qui se passe dans le non-verbal, dans la projection que pourrait avoir le thérapeute à être en face à face avec son patient. Qu'en est-il lorsque vous dites effectivement que vous considérez que la psychanalyse peut être effectivement du face à face, par rapport à ce qu'en disait effectivement Freud dans sa théorie psychanalytique?
Oui, alors, c'est-à-dire, en fait, ce que vous voulez savoir, c'est si une cure en face à face présente autant d'intérêt qu'une cure sur un divan? Oui, parce qu'encore une fois, bon, c'est vrai qu'on le doit peut-être cela davantage à Lacan, dans la mesure où l'analyse est une analyse du langage. Il faut savoir que Freud, au tout départ donc, de sa pratique, hypnotisait. C'était un chercheur, il fallait qu'il écrive, je ne sais pas si vous imaginez la situation, vous êtes chercheur et puis votre patient vous parle, d'abord je ne vois pas très bien comment on peut contre-transférer non plus, et vous écrivez, vous prenez des notes pendant ce temps-là. Bon, je ne pense pas qu'il y a aujourd'hui un analyste sérieux, même s'il a quelques velléités de chercheur, qui puisse en fait pratiquer de la sorte. Bon, Freud, évidemment, pour lui, les choses étaient différentes. C'est un homme qui, effectivement, postulait. Mais on ne voit pas très bien, effectivement, ce que fait la position dans tout cela. Alors, dans la technique psychanalytique, effectivement, Freud nous laisse très libres, d'ailleurs. C'est un homme de grande liberté. Il disait qu'il nous donnait un rail et que partant de là, nous pouvions évoluer comme nous le sentions. Alors, il disait qu'il ne supportait pas d'avoir le regard des gens sur lui toute la journée. Vous l'avez lu. Donc, c'est vrai que depuis les travaux de Lacan, et notamment au niveau de la psychose, au niveau de la paranoïa, il est bien évident qu'on ne peut plus transmettre ce genre de choses. Si un analyste n'est pas capacitaire à supporter le regard de son analysant sur lui, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas réglées, notamment son Œdipe négatif. Y a-t-il d'autres questions ?
Oui, qu'y a-t-il comme différence fondamentale entre une psychothérapie, une psychothérapie analytique, une psychanalyse ? Comment choisir entre tout ça et puis ensuite entre les différentes écoles de psychanalyse ? Enfin, je trouve que c'est un peu...
Alors, oui, c'est vrai que bon, il demeure un flou actuellement. Moi, je trouve que c'est aussi une bonne chose parce que la psychanalyse est une jeune fille. Alors en ce qui me concerne, bon, je n'ai pas du tout connaissance de toutes les psychothérapies qui peuvent exister. Avoir certains patients qui viennent de cabinets donc psychothérapeutiques, eh bien il y a des gens qui travaillent très bien. De façon très simpliste, ce qu'on dit actuellement, c'est qu'un psychothérapeute donc travaille sur le conscient. C'est-à-dire qu'il reste effectivement sur la jouissance, mais ce n'est pas du tout négatif dans la mesure où si on va voir un psychothérapeute, c'est qu'on n'a pas encore non plus la maturité pulsionnelle qui peut permettre une rencontre totale et réelle avec soi. Vous savez que la psychanalyse nous permet de rencontrer le principe de réalité. Donc, vous voyez qu'on va quitter progressivement le principe de plaisir pour se diriger vers le principe de réalité. Donc, on quitte les conduites faux self pour se diriger vers des conduites vrai self. Il faut savoir aussi qu'un individu est soumis à un entourage familial, à un entourage professionnel, et que parfois une analyse comme ça en première intention peut être prématurée. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai commencé par une analyse, je me suis rétractée, je suis passée curieusement, ça peut faire sourire, je suis passée par une psychothérapie pensée positive. Mais écoutez, la pensée positive, ça m'a fait comprendre le clivage de l'objet, etc. J'ai pu retourner chez un psychanalyste et j'ai pu commencer des études analytiques. Le problème que l'on a actuellement, c'est qu'il y a des psychothérapeutes qui se disent psychanalystes. Il y a des psychiatres qui se disent psychanalystes. Ça, c'est embêtant parce que la psychanalyse est une méthode, elle s'apprend. Et elle s'apprend essentiellement dans des instituts privés. Vous savez qu'il y a toute une polémique là-dessus. Et c'est vrai qu'on est un peu en bisbille avec les gens qui prônent malgré tout la transmission donc, de l'analyse sur les bancs de la fac. Pourquoi ? Parce que l'analyse gomme le rapport dominant-dominé. Vous allez en fac, et bien l'étude du transfert est modifiée dans la mesure où le maître est quand même le supposé savoir. Un didacticien, c'est-à-dire la personne qui transmet l'analyse, au contraire, baisse d'un ton, et ça a été dit ce matin là, par un intervenant, et en fait, prend plutôt la place de la supposée ignorance. Ça répond à peu près à ce que vous vouliez savoir. J'insiste peut-être un peu, il faut savoir qu'on aurait mauvaise grâce de critiquer les psychothérapeutes, car lorsqu'on a la chance d'avoir un patient qui est déjà passé par un cabinet de psychothérapeute, il y a un grand chemin qui a été fait, et nous jouons quand même sur du velours. Il faut le savoir, il faut le souligner. Y a-t-il d'autres questions ? Si vous ne me posez pas de questions, je ne vais plus rien vous raconter.
Je ne sais pas si ça rentre véritablement dans le cadre, mais je trouve que c'est parfois difficile d'avoir un dialogue avec son psychanalyste parce que enfin, on rentre un peu parfois comme on rentre dans la vie, on ne sait pas trop ce qu'on peut aller chercher, quelles sont les véritables règles du jeu, comment aller chercher. On n'est pas toujours, aidé dans la manière, parce qu'on est là aussi pour vous dire, bah, dites-nous ce que vous avez à dire, et moi, psychanalyste, je ferai le tri. Donc du coup, quand on est patient, on ne sait pas trop, on est un peu comme dans la vie, comme les nourrissons arrivent, on tâtonne sans trop savoir par où avancer, comment avancer sur soi, comment avancer dans les séances. Enfin, tout ce genre de choses est quand même assez flou pour des novices, quoi, pour nous les patients. Enfin,
c'est flou. Il y a une expression du docteur Nasio que j'aime beaucoup. Dans un de ses livres, il dit « Peu importe ce que l'on dit en analyse, si on sait ce que l'on fait ». Alors, je pense qu'un psychanalyste, c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire que c'est le patient qui va avoir l'impression que l'analyste ne l'écoute pas, que l'analyste ne l'aide pas. En fait, je vous ai parlé, j'ai introduit tout à l'heure le contre-transfert pour effectivement qu'il y ait plus de précision dans ce sens-là. À mon sens, plus un psychanalyste est brillant, moins le patient se rend compte qu'il est en séance analytique. Vous savez, moi, quand je vois des personnes qui me disent qu'elles ont souffert le martyr, qu'elles pleuraient toutes les séances chez un analyste, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là. Hein. Ce n'est pas logique. Vous n'entendez pas ? Il faut que je parle plus fort. Vous voulez que je reprenne un petit peu la question ? Oui. Madame nous disait que très souvent c'est un petit peu le flou, c'est-à-dire pour un patient qui va chez un analyste, le patient peut avoir l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose de la part de l'analyste, c'est-à-dire que l'analyste est indifférent. Alors, on peut reprendre plusieurs axes au travers de cette question, à savoir, donc je l'ai un petit peu introduit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle donc la neutralité bienveillante. Actuellement, on préfère un petit peu plus l'expression empathie, qui est ni de la sympathie ni de l'antipathie pour son patient. Donc encore une fois, c'est cet apprentissage de l'écoute qui permet au psychanalyste de contre-transférer selon le désir, selon l'ambivalence aussi de l'inconscient du patient, au travers d'une méthode, au travers d'une règle qui fait que les choses avancent. Alors, lorsque vous dites lorsque vous induisez que vous pouvez ne pas très bien vous sentir chez votre analyste, c'est logique. Pourquoi ? Parce que, je vous disais tout à l'heure, de façon un peu rapide et un peu sommaire, que l'enfant découvre d'abord son parent, que ce soit d'ailleurs la mère ou le père, comme bon objet. C'est-à-dire, bon objet en tant un petit peu que parent nourricier, mais nourricier en tant que parent qui permet un étayage. Ensuite, comme l'enfant ne va pas avoir, et fort heureusement, dans la totalité de ses demandes, une réponse positive du parent, le parent va devenir mauvais objet. Donc, ces parents fantasmatiques, ce schéma déformé des parents fantasmatiques va être transféré, va être projeté sur l'analyste. Donc très souvent, quand on commence une analyse, on se sent très bien sur les premières séances, et d'ailleurs, je dis toujours de façon un peu ironique, c'est là où les gens font de bouche à oreille, font notre clientèle, parce que nos patients parlent de façon très positive de nous sur les premières séances, et puis arrive ce fameux clivage de l'objet, c'est-à-dire un analyste honnête va permettre le clivage de l'objet, c'est-à-dire va petit à petit, de par la technique analytique, permettre donc le transfert négatif. Donc l'inconscient va refaire le chemin parcouru, en gros, entre 0 et 6 ans, et surtout sur les 30 premiers mois de la vie. Donc l'analyste, au départ, est perçu comme bon, puis perçu comme mauvais, hein, tout comme l'étaient donc les parents objets. Et cela, c'est tout à fait logique, puisque vous savez que l'analyse travaillant sur le comment ne va pas donner de solution, du moins en apparence d'ailleurs, à l'inconscient du patient. Il va falloir petit à petit que l'inconscient quitte l'étayage, qu'il ne prenne plus l'habitude de s'étayer donc sur une énergie qui n'est pas la sienne. Effectivement, ça fait mal. Et dès l'instant où l'inconscient aura une propension à revenir s'étayer sur l'analyste, l'analyste, quand tu auras aussi une maturité pulsionnelle suffisante, castrera. C'est d'ailleurs là, et on demande aux patients de le signaler, ou à l'élève analyste. Il faut savoir que les élèves analystes, ça aussi c'est banalisé, mais ont une vie très difficile. Les transferts négatifs sont beaucoup plus lourds en didactique de groupe, voire en didactique individuelle, que sur une cure analytique. Mais c'est là où on a envie de quitter son psychanalyste. Je connais personne, je connais qui rit, vous voyez, me sent visée d'avoir envie de me quitter. Ah bon, ça va. Et c'est vrai que j'ai le souvenir d'une mauvaise foi, vous voyez, j'en échappe le micro. J'ai le souvenir d'une mauvaise foi totale vis-à-vis de moi-même, où en cours d'analyse, j'ai commencé à décréter que mon analyste était un imbécile, etc., etc. Je le détestais, je le vomissais. Donc effectivement, toute cette phase de transfert négatif doit aussi s'éliminer. C'est que l'analyse, donc encore une fois, arrête le jugement. Donc, de par la guidance de la cure, l'inconscient va se recentrer sur lui. Est-ce que ça répond à peu près à ce que vous vouliez savoir? Vous voulez... Oui, ça va.